Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Ainsi commence l'histoire de Salammbô, publiée par Flaubert en 1862. Ce roman se déroule dans l'Orient ancien, au cœur de la civilisation punique. Il a pour héroïne une prêtresse qui voue un culte à la déesse de la lune. Dès sa parution, ce récit enflamme l'imaginaire occidental. Il fascine par ses couleurs, ses fureurs et ses amours impossibles. Flaubert a créé un véritable mythe qui va inspirer les artistes, mais aussi stimuler les archéologues jusqu'à aujourd'hui. C'est le sujet de l'exposition qui se trouve actuellement au Mucem de Marseille. Après une première étape au Musée des Beaux-Arts de Rouen, nous allons en parler avec l'un de ses commissaires. Bonjour Sylvain Amic.
Bonjour.
Sylvain Amic, vous êtes directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen-Normandie. Nous allons d'abord revenir à la publication de ce roman carthaginois, comme l'appelait Flaubert. Dès le début, il rencontre un immense succès. Pourquoi ce livre a-t-il autant plu au public ?
Alors c'était le deuxième livre de Flaubert, le premier évidemment, tout le monde s'en souvient, c'est Madame Bovary, qui avait été un succès de scandale. Rappelez-vous le procès pour outrage aux mœurs, à la religion et à la morale auquel a dû faire face Gustave Flaubert en correctionnel. Donc on l'attend sur ce terrain-là en fait, on l'attend sur ce terrain des mœurs, on l'attend sur ce terrain du monde moderne, et lui a fait un grand détour, il a stratégiquement pris le parti de traiter un sujet qui se situe loin dans le temps et loin dans l'espace pour être libre, parce qu'il sait qu'il est attendu par la censure. Et ce deuxième roman est lancé un peu comme on lancerait le roman d'un grand auteur contemporain aujourd'hui, avec une sorte de compte à rebours dans les journaux. Voilà, Monsieur Flaubert annonce un nouveau livre, il a un éditeur, il va paraître dans 2 mois, dans 3 semaines, etc. Et quelques jours après la publication, Le Figaro relate que l'on s'apostrophe sur les boulevards. Que faites-vous ? Je rentre chez moi lire Salammbô et vous ? J'achète Salammbô et je rentre. Donc c'est vraiment le grand sujet à la mode. C'est une immense surprise, parce que là où on attendait, comme le dit Sainte-Beuve, Flaubert quelque part chez nous, sur le Pré, en Normandie ou en Picardie, bonnes gens, vous en êtes pour vos frais, il était parti pour Carthage. Et donc la surprise est telle que le succès est immédiat, mais aussi parce que il propose un nouveau répertoire. C'est vraiment un nouveau sujet. Effectivement, le roman est violent, il est passionné, il est excessif. Donc, ne pas l'avoir lu, c'est être à côté de l'actualité culturelle. Voilà pourquoi, tout de suite, le roman de Flaubert vraiment enflamme les imaginaires, et on constate qu'il y a des caricatures, des pièces drôlatiques qui sont jouées dans les théâtres, etc., qui parodient Salammbô. Il y a des bals masqués où on se costume en Salammbô. Donc très vite, ça devient en fait un sujet parfaitement approprié par toute l'élite culturelle de Paris.
L'impératrice Eugénie elle-même aurait songé à se costumer en Salammbô.
Mais absolument, et Flaubert a fait dessiner 2 costumes qui paraissent juste à la sortie du roman, qui sont d'ailleurs très amusants, ils sont dans l'exposition, une espèce de Salammbô échevelé qui est juché sur des socs en bois qui ressemblent un petit peu à quelque chose de moghol, etc. Donc effectivement, tout de suite, il y a des costumes, il y a même des recueils de coiffures costumées à la Salammbô. On a une sorte de mode carthaginoise qui se lance. Il y a des bijoux qui sont réalisés. Par exemple, Mucha va réaliser des bijoux inspirés par Salammbô pour Fouquet. On dit que Worth, le fameux couturier anglais, a créé une robe Salammbô pour Madame Rimsky-Korsakov qui était si érotique, si transparente, que l'on a renvoyé à Madame Rimsky-Korsakov se rhabiller. Donc on a vraiment une sorte d'engouement et de phénomène culturel qui se noue avec le roman et qui finalement crée un socle, une audience qui fait que le succès ne se démentira plus jamais.
Alors de son vivant, Flaubert refuse résolument de voir son texte illustré par des images. Il n'est pas d'accord pour avoir d'autres éditions de son roman illustré.
Oui, et c'est une position générale pour l'ensemble de ses écrits. Il dit « Moi vivant, jamais on ne m'illustrera ». Il l'explique de façon très très simple. Quand je décris une femme, c'est 1000 femmes. Une fois qu'elle est dessinée, ce n'est plus qu'une femme. Donc cette espèce de privation de l'imaginaire du lecteur, effectivement, l'ennuie. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le cas de Salammbô, parce que il le dit lui-même, il a accumulé une documentation considérable, il veut être le plus précis possible, d'ailleurs la langue s'en ressent, on voit qu'il va chercher des mots mystérieux, des notions tout à fait savantes, mais cet énorme effort d'érudition et de documentation, c'est en fait pour rester dans le vague. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai pas mis autant d'art à rester dans le vague pour qu'un pignouf vienne gâcher mon rêve par sa précision inepte. Donc surtout pas de dessin, surtout pas d'illustration. Et d'ailleurs, il va tenir ce pari presque jusqu'à sa mort. Juste avant sa mort, il y a une édition qui comporte 10 gravures séparées du texte qui paraît, mais vraiment, c'est un subterfuge d'éditeur contre son avis. Et en revanche, après sa mort, eh bien, il y a une libération totale, puisque sa nièce, Caroline Comanville, va autoriser les éditions illustrées. Et là, on a finalement une nouvelle génération de lecteurs qui va découvrir le livre avec des images, là où pendant les 20 premières années, le livre cheminait simplement dans les imaginaires.
Quelles sont les scènes que retiennent les artistes ?
Alors, c'est très amusant, effectivement, parce que c'est un roman assez abondant, et donc, petit à petit, on voit émerger des sujets. Et très, très classiquement, c'est Eros et Thanatos, c'est-à-dire toutes les scènes horrifiques de bataille, les scènes terribles, et le roman en est vraiment plein, apparaissent les grandes batailles, le moment où les mercenaires sont isolés dans le défilé de la hache, où ils vont mourir d'inanition. Alors ça va inspirer par exemple des peintres ou des sculpteurs, et on peut dire vraiment qu'il y a quelque chose de grand guignol un petit peu, c'est vraiment des scènes horribles d'anthropophagie, des scènes pleines d'une violence vraiment exacerbée. Et puis, toutes les scènes plus érotiques. Alors, on fait de Salammbô un roman érotique. Au fond, c'est un roman plutôt chaste, puisque, comme vous l'avez dit, Salammbô est la prêtresse de Tanit. Elle est élevée dans l'ignorance de toute chose de la vie normale. Et en fait, elle éprouve des sensations, elle éprouve des sentiments sur lesquels elle n'arrive pas à mettre un nom. Cela la perturbe. Mais elle est loin d'être l'espèce d'héroïne, d'icône érotique que les artistes, les illustrateurs vont faire de ce personnage par la suite. En revanche, il y a des scènes fameuses du livre, par exemple la scène de la danse avec le serpent, la scène de la rencontre avec Mato sous la tente, qui inspirent les artistes. Et puis, il y a aussi ces grands moments, coups de théâtre, et ça on sent que Flaubert les a travaillés un peu comme s'il avait fait un opéra ou un spectacle de théâtre. Par exemple, le moment où Salammbô apparaît au milieu du festin des barbares. Vous avez dit, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Il s'agit d'une scène de festin qui dérape. Les mercenaires qui sont, plus le temps passe, plus ils boivent, plus ils sont en colère contre Carthage qui ne veut pas les payer. Le désordre augmente et au moment où le désordre est à son comble, Salammbô apparaît. Ça, vraiment, c'est une scène aussi qui a beaucoup inspiré les artistes, à la fois le festin, l'abondance, ce festin barbare, ces mercenaires sont des soldats aguerris venant de toutes parts, et puis tout à coup cette sorte de frêle créature que l'on croit être frêle et qui va s'imposer avec autorité pour établir l'ordre dans le palais du maître Amilcar. Bon, voilà, donc ce sont les scènes qui émergent petit à petit dans les représentations.
Ce récit inspire en particulier les artistes de l'art nouveau et vous présentez par exemple une reliure de Victor Prouvé.
Oui, alors effectivement, on voit bien qu'il y a une sorte de convergence entre Salammbô et ce mythe de la femme fatale qui a tant alimenté les imaginations à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. L'art nouveau, on le sait, c'est quelque chose qui est dans toute l'Europe et on voit que l'ensemble des artistes de l'art nouveau regardent, lisent Salammbô et vont interpréter ce texte, que ce soit Victor Prouvé à l'école de Nancy, une superbe reliure. Mais Victor Prouvé a fait aussi ce qu'il appelait des bois brûlés, c'est-à-dire une sorte de bois gravé un peu à la Gauguin, qui sont tout à fait remarquables et dans lequel on trouve une Salammbô. Mais si on continue vers l'Est, eh bien on va trouver à Munich, par exemple, chez un artiste qui s'appelle Karl Stratmann, une Salammbô absolument merveilleuse. Et si l'on poursuit encore, on va même trouver en Tchécoslovaquie et dans toute l'Europe de l'Est des réinterprétations de Salammbô par la gravure qui accompagnent le texte au fur et à mesure qu'il pénètre dans toute l'Europe.
Nous avons parlé de Victor Prouvé. Il y a aussi Mucha qui réalise une affiche pour une représentation d'opéra de Salambeau. Parce que si Flaubert ne voulait pas mettre Salambeau en image, dès le début, il rêvait de la mettre en musique dans une adaptation lyrique. Cela a mis du temps à se réaliser. Mais finalement, dans les années 1890, nous y sommes parvenus.
Oui, alors c'est vrai que Flaubert adore la scène. Lui-même a écrit pour le théâtre. Il a imaginé des féeries, des spectacles, voilà, avec beaucoup d'effets. Et dès le début, on constate, c'est d'ailleurs Maupassant qui le dit dans une préface, est-ce là vraiment un roman? N'est-ce pas plutôt un opéra en prose? Donc on ne peut que adhérer à l'idée d'un opéra. On pense à Verdi pour la musique, on va penser à Théophile Gautier pour le livret, ça ne sera finalement ni l'un ni l'autre, ce sera Reyer, Ernest Reyer, un compositeur né à Marseille qui est du genre wagnérien, et puis Dulocle, un librettiste qui a une très grande expérience, et Flaubert lui-même fait le découpage du roman en 5 actes, commence à travailler sur l'intrigue, et puis ensuite le travail démarre, et il ne verra pas son achèvement, puisque le spectacle sera créé en 1890 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, avec dans le rôle titre Rose Caron, qui est une cantatrice qui connaît une carrière vraiment époustouflante, qui était une des égéries de Degas, et qui va triompher dans ce rôle. Il sera créé que 2 ans plus tard, en 92, à Paris. Mais au-delà de l'opéra de Reyer, on a de multiples compositions musicales qui s'inspirent de Salambeau. Il y a le poème de Florent Schmitt, par exemple, dans les années 20. Et puis encore, beaucoup plus récemment, Philippe Fénelon, pour l'opéra Bastille, dans les années 90, 1990, celle-là, a créé une Salambeau. Donc on voit que ce texte a un potentiel pour le spectacle assez extraordinaire, et surtout qu'on peut avoir des lectures différentes. Autant la Salambeau de Reyer et de Dulocle, elle est assez mystique, autant la Salambeau de Fénelon, c'est une Salambeau d'aujourd'hui, émancipatrice et revendicatrice.
Nous avons parlé de la postérité de Salambeau dans le domaine artistique. Il y a aussi le domaine de l'archéologie qui est peut-être moins connu. Flaubert, dans sa démarche, vous l'avez dit, c'est énormément documenté, mais il avait aussi quelque chose d'assez novateur, notamment dans le rapport au texte. En fait, cette civilisation carthaginoise nous est surtout connue par les textes des Grecs et des Romains, qui étaient leurs ennemis, on pourrait dire. Oui. Mais Flaubert a cherché à se libérer de ces regards-là pour chercher une autre réalité.
Oui, tout à fait. Il se méfie de ce témoignage, en particulier celui de Polybe, puisque c'est un historien grec qui est du côté des Romains, qui assiste à la chute de Carthage. Donc il sait que ce témoignage est orienté. Il prend aussi avec des pincettes l'Énéide et Virgile, où on voit avec l'épisode de Didon et Énée une certaine vision de Carthage. Et il va chercher à croiser les sources, d'abord à voir tous les documents authentiques qui sont accessibles à son époque. Et par exemple, ce qui est montré à Marseille, ce qu'on appelle le tarif de Marseille, c'est une pierre sur laquelle il y a des inscriptions qui sont les tarifs pour les libations, pour les sacrifices et pour les vœux des impétrants. Et ça, c'est une pièce très, très sommaire, mais il la connaît, de même qu'il va au cabinet des médailles, qu'il va au Louvre pour voir les pièces de monnaie, les bribes archéologiques qui existent en son temps, et il consulte tous les recueils qui existent sur la langue punique, sur les inscriptions, et en particulier les fouilles de Falbe, qui était le consul du Danemark à Carthage. Mais tout ça lui donne une vision assez maigre, finalement, de ce qu'était Carthage. Alors il va croiser cela avec, de façon plus générale, tous les ouvrages traitant de l'Antiquité, des cultes antiques, de la flore et de la faune, de l'ensemble finalement des comportements humains de l'Antiquité. Quand il doit se documenter pour une scène qui ne figure nulle part, il va même chercher d'autres civilisations plus lointaines. Il va par exemple aller jusqu'à regarder les civilisations aztèques pour imaginer les sacrifices humains. Il se documente beaucoup dans la Bible de Caron en 15 volumes avec tout un appareil de notes et de historiques et scientifiques. Et quand tout cela il l'aura assimilé, il se dit qu'il doit en plus vérifier sur place. Et donc il va se rendre en 58 en Tunisie. Et là, il ne voit que les hyperstructures, les super structure qui dépasse finalement du sol, qui n'est pas fouillée, donc ce qui reste de la Carthage romaine, mais il voit aussi le site, il voit aussi la baie, le port punique, il voit toute cette topologie, topographie, et cela va déverrouiller vraiment son imaginaire. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il rédige est à la fois instruit par son érudition et à la fois par sa présence sur les lieux, et forcé de reconnaître qu'il a prophétisé, on pourrait dire, des choses qui ont été découvertes après. C'est ça la chose. Par exemple, les citernes, des vestiges qui ont été découvert, par exemple, quand il fait de Salammbô la prêtresse du culte de Tanit, donc la chef au féminin des prêtres de Tanit, eh bien, on a trouvé dans les années 1890, et c'est un autre Normand, un père blanc, le père Delattre, qui a sorti ce sarcophage de la nécropole des Raps, un sarcophage dont le couvercle était sculpté, et l'épitaphe nous explique que cette femme était la chef des prêtres. Donc, c'était bien une femme qui commandait les prêtres. Comme Flaubert l'avait imaginé. Donc même dans la structure sociale, dans les édifices, sa documentation était telle qu'il a tout simplement décrit ce qu'il était normal de trouver. Il suffisait que l'on s'y attelle pour le révéler. Alors ce qui effectivement nous amène à une situation assez cocasse, puisque les archéologues souvent lisent et relisent Flaubert pour voir la distance qu'il y a entre le livre et le réel que nous révèle l'archéologie année après année.
En tout cas, il a aiguisé leur intérêt et les débuts de l'archéologie dans cette région.
Tout à fait, il y avait déjà des intentions. Alors, il est vrai que l'école française d'Alger, etc., au fur et à mesure que la France augmentait son emprise coloniale, c'était accompagné aussi de chantiers de fouilles, de chantiers de préservation du patrimoine, plus ou moins heureux. Certains n'étaient pas forcément dans les règles de l'art. Donc, il y avait de toute façon une espèce de grand élan vers l'archéologie de l'Afrique du Nord, mais il est clair que Flaubert a mis Carthage dans la lumière, et on a d'autres échos de cela, par exemple, quand on voit les fêtes de Carthage qui sont organisées par le docteur Carton, quelqu'un qui avait pris le relais du père Delattre dans les fouilles archéologiques en 1907. Ce sont des fêtes sur le site archéologique de Carthage, peut-être pas très respectueux d'ailleurs du site, et on voit que l'on recherche dans les spectacles qui sont créés une sorte d'exactitude archéologique au prisme des nouvelles découvertes qui ont été faites sur le site.
Vous avez organisé une journée d'études à Rouen autour des nouvelles fouilles sur ce site. Quelles sont les dernières découvertes?
Oui, c'est parce qu'il y a eu de très vastes campagnes de fouilles dans les années 80-90 sous l'égide de l'UNESCO. Une douzaine d'équipes internationales ont fouillé la Carthage dans toutes ses strates historiques, donc la Carthage romaine, la Carthage punique, etc. Et ce qui a été le plus extraordinaire, ça a été la découverte du Tophet. Alors, rien que ce mot-là, par exemple, est ambigu. C'est un mot que Flaubert a emprunté à la Bible, qui désigne une aire sacrificielle à Géhenne, aux abords de Jérusalem. Et quand on a découvert le cimetière punique, on lui a donné le nom de Tophet en le reprenant finalement de Flaubert, même si ce nom circule dans toute l'Afrique du Nord et dans toutes les langues sémites. Néanmoins, on voit qu'on a utilisé ce mot, donc hybridant finalement l'archéologie et la littérature. Ça, c'est un site qui est toujours fouillé actuellement et qui a apporté son lot de controverses, puisque dans les années 80, on a découvert en particulier des ossements d'enfants calcinés qui étaient conservés sur ce site, et on a été face à une controverse. Y avait-il eu des sacrifices d'enfants comme Flaubert l'avait décrit? Flaubert n'avait aucune source valable pour le faire, il avait imaginé cette scène, mais le fait d'avoir trouvé ces ossements calcinés a paru corroborer son hypothèse. En fait, les archéologues le savent, nul ne peut dire si il y a eu sacrifice ou pas, le mot de sacrifice étant aussi post-mortem, c'est-à-dire une sorte d'holocauste, et pas forcément un sacrifice d'enfants vivants, mais aussi ça peut être d'enfants mort-nés, d'enfants malades, etc. Donc ces controverses ont été aussi aiguisés par une vraie préoccupation nationale, d'identité, pour la Tunisie moderne, de retrouver son histoire, et forcément l'image qu'avait donnée Flaubert d'une civilisation brutale et parfois cruelle est venue complètement interférer avec la construction de cette identité nationale. Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont plus apaisées, que le livre est fait partie d'un patrimoine commun entre les deux rives, et on trouve par exemple à Carthage une commune qui s'appelle Salammbô, du nom du personnage qui est une véritable invention de Flaubert et qui s'incarne de façon très réelle, très concrète dans ce district de Carthage.
Vous accueillez d'ailleurs dans l'exposition plusieurs artistes contemporains dont le travail fait écho à l'œuvre de Salambo. Certains sont tunisiens. Qu'est-ce qui, eux, les intéresse aujourd'hui dans ce mythe littéraire ?
Alors oui, effectivement, et je pense en particulier à Yasmine Manrelil qui a réalisé un certain nombre de collages à partir du livre illustré de Salambo, et elle a superposé finalement plusieurs couches. Au départ, il y a le texte, puis il y a les illustrations. Alors c'est l'édition illustrée par Poisson dans les années 1880, où il y a une dizaine de gravures qui, évidemment, appartiennent au registre de l'orientalisme, registre dont Flaubert s'était bien gardé d'épouser les contours et les poncifs, mais les illustrateurs apportent aussi leur bagage. Donc sur la première couche du texte, il y a ces images, et elle a rajouté par-dessus ces images d'autres images, celles d'aujourd'hui, celles de l'Internet, celles du web, qui nous montrent ce poncif de la femme orientale, la danseuse orientale, la danse du ventre, etc. Et de cette façon-là, elle nous montre la construction d'un imaginaire, voilà, qui est d'ailleurs partagé entre Orient et Occident, mais qui se construit sur ce substrat et au départ sur ce que Flaubert révèle, c'est-à-dire une civilisation oubliée sur laquelle on peut construire des fantasmes, et cela demeure jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, un grand merci Sylvain Amic de nous avoir fait découvrir, mieux connaître ce mythe de Salambo. Je rappelle donc que cette exposition qui était présente à Rouen est arrivée à Marseille. Elle se trouve au Mucem jusqu'au 7 février. Et puis vous pouvez aussi regarder le magnifique catalogue de cette exposition qui est publié aux éditions Gallimard. À bientôt.
Merci.